VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Corne de l'Afrique, au moins 18 policiers somaliens tués dans l'attentat suicide perpétré ce jeudi matin dans une école de police à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. C'est ce qu'a annoncé un commandant des forces de l'ordre. L'attentat suicide a été revendiqué par les islamistes Chebab affiliés à Al-Qaïda. Ouverture aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, du procès du maire de la capitale, Khalifa Sall. Il comparaît devant le tribunal correctionnel pour répondre des accusations d'association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur 1,8 milliard de francs CFA. Khalifa Sall a été inculpé et il est incarcéré à la prison de Rebus depuis le 7 mars 2017. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay, fait le point.
Après plus de 9 mois d'instruction, le marathon politico-judiciaire autour de l'affaire dite de la caisse d'avance va connaître un tournant décisif avec l'ouverture à Dakar du procès du maire de la ville de Dakar et de ses co-accusés. Rappelons que les poursuites contre Khalifa Sall ont été enclenchées suite à un rapport de l'inspection générale d'État qui mettait en lumière l'existence d'une caisse d'avance qui aurait permis au maire de Dakar de recevoir 30 millions de francs CFA chaque mois, une somme qui cumulée aurait atteint 1,8 milliard de francs CFA sur une période de 5 ans. Le maire de Dakar a toujours nié avoir détourné des deniers publics. Malgré tout, les recours introduits par ses avocats pour obtenir l'annulation des poursuites ou la liberté provisoire de leurs clients ont toujours été rejetés. Même la caution rassemblée par ses proches n'aura pas permis à Khalifa Sall de recouvrer la liberté. Ce procès sonne donc comme la dernière chance du maire de la ville de Dakar pour prouver son innocence et ne pas voir son rêve présidentiel s'envoler. À Dakar, Sedina Abagay pour VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes en Afrique, la force du G5 Sahel bénéficie désormais de nouveaux soutiens financiers. C'est l'un des acquis de la réunion de Paris, mercredi, sur l'accélération de la mise en place de cette force qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Yacouba Ouidraogo.
La principale annonce de la réunion de Paris a été la décision de l'Arabie Saoudite de contribuer à hauteur de 100 millions d'euros à la force du G5 Sahel. Les Émirats arabes unis apporteront pour leur part 30 millions d'euros. Ces contributions s'ajoutent aux enveloppes déjà annoncées de 50 millions d'euros de l'Union européenne et 60 millions de dollars des États-Unis. Les besoins de cette force ont été évalués à 250 millions d'euros. Le président Emmanuel Macron a souligné que le G5 Sahel connaîtra une augmentation des effectifs, un renforcement des postes de commandement dès le premier semestre de 2018. La chancelière Angela Merkel a ajouté que son pays va apporter des équipements et des infrastructures. Cette réunion sera complétée par un sommet le 23 février à Bruxelles. Les groupes djihadistes dispersés après une occupation du nord malien ont retrouvé un nouveau souffle malgré une présence dans la région de 12 000 casques bleus de la MINUSMA et 4 000 soldats de la force française Barkhane.
Au Cameroun, le principal parti d'opposition, le Social Democratic Front, a dénoncé hier ce qu'elle a appelé la militarisation des deux régions anglophones du pays. C'était au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Précision de notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Ntap.
Au cours de la conférence de presse, Paul Ndji Toumazan, député SDF de la Mesam Sud dans le Nord-Ouest, a pris le contre-pied du gouvernement, affirmant que les zones anglophones, y compris son village, sont militarisées et non sécurisées. Jean Tomelou, secrétaire général du SDF, a pour sa part critiqué la mauvaise gestion de la crise dite anglophone par le régime de Paul Biya. Jean Tomelou.
Cette attitude hostile et arrogante des gouvernants a tout fait de généraliser la crise à l'ensemble des populations anglophone.
En novembre dernier, à défaut de parvenir à inscrire à l'Assemblée nationale et au Sénat l'examen de la crise anglophone, les parlementaires du SDF ont plus d'une fois interrompu les travaux dans les deux chambres. Jean Temoulou, secrétaire général du SDF.
Le chairman m'a demandé officiellement de dire que le parti est fier de vous. Vous avez respecté les instructions du parti.
Le SDF a par ailleurs réitéré la tenue d'un dialogue inclusif pour résorber la crise anglophone. Yaoundé, Emmanuel Juntap. VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Nigeria, des combattants du groupe djihadiste Boko Haram ont tenté de prendre d'assaut mercredi un poste militaire dans le nord-est du pays avant de se replier au bout d'une heure de combat avec l'armée, laissant plusieurs morts sur le terrain. Selon Lawan Boko Haram, ancien président du district de Kaïga, 14 des assaillants ont été tués et 2 de leurs pick-up détruits. Une délégation sécuritaire américaine est au Tchad depuis une semaine pour s'enquérir des faiblesses des pièces d'identité dans ce pays, alors que les États-Unis ont placé le Tchad sur leur liste noire, interdisant l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant tchadien. C'est de leur rapport que dépendra la levée de la mesure qui frappe le Tchad. Fin septembre, le gouvernement américain a inscrit le Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants sont indésirables aux États-Unis. Selon le président Donald Trump, le Tchad ne coopère pas avec le gouvernement américain et ne partage pas de manière adéquate les informations concernant la sécurité du public et le terrorisme. Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé hier de nouvelles sanctions financières ciblées visant les rebelles ougandais de l'armée de la résistance du Seigneur de Joseph Kony. Ils sont accusés d'attiser le conflit en Centrafrique. Eric Manirakiza.
D'après le Trésor américain, ces mesures concernent deux hommes, Okot Lukwang et Moussa Hatari. Ils ne pourront plus faire d'échanges avec des citoyens américains et leurs éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés. Le Trésor affirmait que Okot Lukwang était responsable du renseignement et de la logistique au sein de la LRA de Joseph Kony. Il aurait mené des trafics d'ivoire pour fournir le groupe en devises, armes et munitions. Moussa Hatari, commerçant de la région de Kafiaking, dans le sud du Darfour, est décrit comme un fournisseur de munitions, mines, armes et nourriture de la LRA. En 25 ans, la LRA s'est forgée une terrible réputation par des enlèvements d'enfants, des mutilations de civils à grande échelle et pour avoir semé la mort et la désolation dans la région. Barack Obama avait déployé une centaine de soldats américains dans la région pour aider la traque du rebelle ougandais Joseph Kony, qui est jusqu'ici resté insaisissable.
En Angola, le grand ménage engagé par le nouveau président João Lourenço contre des proches de son prédécesseur José Eduardo dos Santos suscite des tensions au sommet. Il y a même eu une passe d'armes publique inédite dans les annales politiques du pays, John Lyndon.
L'ancien président José Eduardo dos Santos est sorti de sa réserve mardi. Toujours le chef du MPLA, il a rompu le silence devant la presse, déclarant que les changements sont nécessaires, mais ne devraient pas être aussi radicaux. Son successeur, João Lourenço, lui a apporté la réplique hier en promettant de continuer à lutter contre la corruption. Pendant sa campagne, il s'était engagé à relancer l'économie en crise, malgré la manne pétrolière et les richesses en diamants. La population angolaise est parmi les plus pauvres de la planète. Après 38 ans de règne sans partage, M. dos Santos avait mis l'économie en coupe réglée au profit d'une poignée de proches. M. Lourenço a congédié ces dernières semaines nombre de proches de l'ancien président de la tête des institutions et entreprises publiques. Isabelle dos Santos, la fille de l'ex-président, considérée comme la femme la plus riche du continent, a été limogée le mois dernier de la direction de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale, en difficulté à cause de la baisse des cours du brut.
Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a exhorté les puissances occidentales ce jeudi à lever les sanctions économiques prises contre son pays. Emmerson Mnangagwa, 75 ans, est devenu chef de l'État le mois dernier, après la mise à l'écart de son prédécesseur Robert Mugabe sous la pression de l'armée et du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Robert Mugabe, qui a dirigé le pays pendant 37 ans, se préparait à passer le pouvoir à sa femme Grace. L'ex-président, évincé du pouvoir en novembre, s'est envolé pour Singapour afin d'y subir un contrôle médical de routine. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui son ancien porte-parole, George Charamba. Robert Mugabe et son épouse Grace, dont la soif de pouvoir a provoqué la chute de son mari, n'ont pas été vus en public depuis l'annonce par le président Mugabe de sa démission le 21 novembre. Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC au pouvoir, se réunit à partir de samedi pour remplacer son chef très contesté, le président Jacob Zuma, lors d'un vote dont le vainqueur a de bonnes chances de lui succéder aussi à la présidence du pays en 2019. Depuis des mois, la course s'est résumée Un duel féroce entre le vice-président Cyril Ramaphosa, un ancien syndicaliste, et la candidate soutenue par M. Zuma, son ex-épouse et ancienne patronne de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.